faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour toutes choses, merci mon Dieu pour tes bienfaits. Saint-Esprit, nous nous remettons une fois de plus entre tes mains, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles, car c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité, et nous le reconnaissons en ce jour. Nous reconnaissons que la vérité divine est en toi, Esprit de Dieu vivant. Apprends-nous à la découvrir, non seulement à la découvrir, mais en plus à l'appliquer. Béni sois-tu Dieu des cieux, sois élevé pour tes hauts faits, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler du bonheur. Nous sommes en train de parler de l'amour. Amen. Parce que l'amour donne le bonheur, l'amour vous donne la paix, l'amour vous donne de la tranquillité intérieure, l'amour vous donne de la patience, l'amour vous permet de manifester, n'est-ce pas, comme je dis, ce profond calme, cette profonde assurance-là, alléluia, avec laquelle vous pouvez aborder facilement les différents challenges et les défis de la vie. Amen. Jésus dit de ce commandement, en ce qui concerne son volet, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est le deuxième plus grand commandement. Le premier volet de ce passage, de cette déclaration du Seigneur, c'est que aimer Dieu est le tout premier commandement, c'est-à-dire c'est le tout premier principe, c'est le principe le plus important. Tous les autres commandements et toutes les promesses de Dieu sont inclus dans l'application de ces deux principes. Si j'aime mon Dieu plus que toute autre chose, et si j'aime mon prochain comme moi-même, je deviens capable beaucoup plus aisément d'appliquer les commandements de Dieu et de les appliquer de manière durable. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, je crois qu'il y a deux grandes sources de motivation. Deux grandes sources de motivation. La motivation à faire quelque chose. La motivation à se mouvoir, à bouger. Il y a la motivation qui vient de la peur. Il y a la motivation qui vient de l'amour. Ce qui te motive dans tes actes. Une personne, par exemple, peut prendre soin d'un enfant comme une nounou. Pas par amour pour l'enfant, mais elle peut le faire par la peur. La peur de manquer d'argent qui l'amène, n'est-ce pas, à chercher à travailler, à chercher à avoir de l'argent. Et parce qu'elle cherche l'argent, elle se comporte d'une certaine façon. Mais la recherche de l'argent n'est pas en tant que tel l'argent même. En fait, l'homme cherche l'argent parce qu'il a peur. L'homme cherche l'argent pour lui donner une certaine sécurité. Donc la quête de l'argent a pour fondement une certaine peur, une certaine crainte, la crainte de manquer de certaines choses, le désir de trouver une certaine sécurité. La peur peut vous faire courir. La peur peut vous faire sourire. La peur peut vous amener même à être poli. Si tu as peur de perdre ton boulot, que ton patron te menace en disant « Si tu me fais perdre encore un client, je te vire de la société. Je veux que tu sois accueillant. Je t'assure que tu peux devenir courtois et donner de grands sourires à tous les clients. » Ce sourire-là ne vient pas du fait que tu les aimes, mais vient du fait que tu veux conserver ton poste. Donc, la motivation de ton sourire est quelque part la peur. Alléluia. Et la deuxième source de motivation qui est celle que Dieu recommande, c'est l'amour. C'est-à-dire, Dieu veut que tu sois poli, que tu sois courtois, que tu sois bon envers les autres. Pas parce que tu as peur de quelqu'un, mais tout simplement parce que tu les aimes. Alléluia. Ça fait une grande différence et c'est une différence qui est importante. Amen. Dieu dit que lorsque la peur est la base de vos actions, elle produit des attitudes, elle produit des actions qui ne sont pas durables dans le temps. Amen. Si vous venez à l'église, si vous adorez parce que vous avez peur d'aller en enfer, le jour ou bien les instants, vous allez sentir que vous êtes déjà sauvé, que vos péchés sont pardonnés, vous allez voir que votre zèle pour Dieu va diminuer. Alléluia. Beaucoup de personnes se convertissent par la peur d'aller en enfer. C'est une raison valable ou pas valable. En tout cas, c'est bien aussi de se convertir parce qu'on a peur. Mais une fois que tu t'es converti, tu dois marcher avec Dieu par amour. Amen. Pas parce que tu as peur de Dieu. Et je vous avais posé cette question-là, je la repose souvent. Si le Seigneur décidait de mettre fin à l'enfer, il dit le ciel, l'enfer est fermé, Dieu a fermé le portail de l'enfer, plus personne ne part en enfer. La question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que tu allais continuer ta foi chrétienne? S'il n'y a plus d'enfer, et je te rassure, l'enfer va toujours exister. Donc, ça ne va jamais arriver, mais supposons. On dit, quelle que soit la façon dont tu vis, ce qui est sûr, tu vas au paradis. Ou bien même si tu ne vas pas au paradis, mais en tout cas, tu ne vas pas en enfer. Vas-tu continuer à vivre la sainteté? Quand tu ne commets pas l'impudicité, est-ce que c'est parce que tu as peur d'aller en enfer ou bien c'est par amour pour Dieu? Ou bien encore, vous pouvez voir avec un homme avec son épouse. Une femme peut être sérieuse avec son mari parce qu'elle a peur qu'on la divorce. N'est-ce pas? Si un homme a peur des réactions de sa femme et à cause de ça, il ne commet pas l'adultère, je vous assure que si c'est la peur qui l'amène à être fidèle, le jour où la femme ne sera plus présente parce qu'elle a voyagé pour un long moment ou que lui-même il est parti en voyage pour un long moment, il va la tromper. C'est-à-dire, sa capacité à être fidèle va diminuer. N'est-ce pas? Va diminuer parce qu'il est loin d'elle, parce qu'elle ne peut pas le voir. Si je suis douce, bonne, parce que j'ai peur d'être divorcée, lorsque la personne qui peut me divorcer n'est pas là, je vais laisser un penchant négatif naturel se manifester. Même si moi-même je ne souhaitais pas être adultère, mais je vais me rendre compte que l'adultère dans mon cœur n'avait pas vraiment disparu. Il était couvert par ma peur. Mais aussi, un homme peut être fidèle parce qu'il aime sa femme. Une femme peut être fidèle à son mari parce que seulement elle l'aime vraiment. Alors quand tu aimes la personne, que la personne soit présente ou pas, ça n'influence pas tes attitudes, parce que vraiment tu aimes la personne. Tu as envie de lui faire plaisir. Alléluia. Donc, la peur comme l'amour peuvent créer deux attitudes similaires. Deux chrétiens peuvent prier. Un prie parce qu'il a peur du diable. Un autre prie parce qu'il aime Dieu. Ça fait une différence. Alléluia. Un jeûne parce qu'il aime Dieu. L'autre jeûne parce qu'il a peur du diable et des sorciers. Les deux sont en jeûne. Mais les deux jeunes n'ont pas le même poids. Alléluia. Dieu dit, ce qui doit vous motiver, ce n'est pas la peur ni la crainte, mais c'est l'amour. Vous devez, parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Et moi, je vous ai dit, dans mon témoignage, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai eu à payer le prix. Parce qu'au départ, pendant longtemps, j'ai marché avec Dieu par peur d'aller en enfer. J'ai eu une vision de l'enfer. J'ai dit, non, ça c'est un coin, mon ami, tu ne peux jamais souhaiter à une personne. Donc, quand le péché s'approche, arrière de moi, Satan, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. La Bible dit que l'amour est l'union de la perfection. Si tu veux que ta vie de sainteté perdure, il faut transformer la peur de l'enfer en amour seul pour Dieu. Alléluia. C'est vrai, il faut avoir peur de l'enfer quand même. Il faut avoir peur de l'enfer. Il faut avoir peur un peu quand même de tromper ton conjoint. Ce n'est pas bien même. Mais pour que cette attitude de fidélité demeure, il faut de l'amour. Si c'est seulement la peur qui est dans ton cœur, la peur va finir par te détruire. Amen, amen, amen. Donc il y a deux grandes sources de motivation. Soit l'amour, soit la peur. Celle pour laquelle le Seigneur nous parle, c'est l'amour. Nous devons aimer les gens. Amen. Nous devons aimer. Nous devons être souriants parce que nous aimons les autres. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible dit ceci. Quand l'amour commence à conduire nos attitudes, l'amour nous donne profondément de la paix. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes courtois, nous sommes polis, nous recherchons la paix, pas parce qu'on on a peur de quelque chose, mais simplement parce qu'on recherche le bien des autres. Si ces choses-là nous motivent,
nous-mêmes, nous allons avoir une joie intérieure. Nous-mêmes, nous allons être en paix parce que nous sommes créés de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu et Dieu est amour. Dieu agit par amour, pas par peur. Dieu n'a peur de personne. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi? Gloire à Jésus. Maintenant, nous sommes en train d'étudier comment aimer son prochain. Comment l'aimer? Comment d'abord changer mes attitudes? Parce qu'on a dit que l'amour, ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est un commandement. Donc, et un commandement, j'obéis. Donc, quelles sont les attitudes que je dois remodeler qui vont après amener mes sentiments à s'attacher aux gens, à les aimer? Amen. Je ne renie pas l'importance des sentiments. Je crois que vis-à-vis des autres, il faut avoir une certaine compassion. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Mais pour ressentir quelque chose pour autrui, il faut au préalable poser des actes. C'est pourquoi la Bible dit ceci, c'est un commandement. Voici le second commandement, tu aimeras. C'est un ordre. Donc, tu commences par agir en obéissant à Dieu avant de ressentir. Tu n'attends pas de ressentir avant d'agir. Tu commences à faire le bien à ton prochain avant de ressentir, avant d'avoir envie de lui faire le bien. Amen. Alléluia. Tu ne dis pas, comme je n'ai pas envie de lui faire du bien, je ne lui ferai pas le bien. Parce que si je lui fais le bien sans avoir envie, c'est de l'hypocrisie. Non. C'est de l'obéissance à Dieu. Si parce que Dieu a dit, tu fais du bien à ton prochain, tu obéis à Dieu. Et dans cet instant-là, cela s'enchaîne et Dieu te donne le sentiment. Amen, amen, amen. Amen. Si tu ressens donc dans ton cœur que tu ne supportes pas la tête d'une personne, ça veut dire que tu n'appliques pas aussi l'amour. Alléluia. Si la tête d'un individu que tu ne peux pas supporter, ça veut dire tout simplement que tu es malade en ce qui concerne ton amour. Donc tu dois revoir les choses que tu appliques. Tu dois revoir tes attitudes. Une fois que tu les as revues, que tu appliques les choses que nous sommes en train de partager, tu vas voir que sans fournir d'efforts particuliers, tu regardes cette personne et tu as plutôt de la compassion au lieu d'avoir du mépris, au lieu d'avoir du rejet. Tu n'as même pas à souffrir. Tu appliques juste les attitudes, les 8 clés dont nous sommes en train de parler pour ce qui est de l'amour du prochain. Tu fais juste l'effort d'obéir à cette voie-là. Et sans que tu t'en rendes compte, le visage que tu ne pouvais pas regarder, tu vas être capable de t'asseoir et de regarder le visage. La personne que tu ne pouvais pas saluer, tu vas te rendre compte qu'elle vient vers toi et tu ne l'en veux pas. Tu vas voir au niveau de ton service, on va te trahir, quelqu'un va te trahir, mais tu regardes en toi, il n'y a aucune haine, il n'y a aucune amertume. Alléluia. Car si tu éprouves, si tu ressens de l'amertume contre autrui, Dieu dit que toi-même tu es esclave. Tu en souffres et tu es malade, tu n'es plus tranquille. Il y a quelqu'un qui peut faire passer ton sourire du matin, simplement en la rencontrant au carrefour. Dieu trouve que ce n'est pas normal. L'amour du prochain nous donne la libération, nous donne la liberté. L'amour du prochain nous donne la paix parce qu'on est à l'aise avec tout le monde. On n'a pas de problème. Amen, amen, amen. Amen. Si quelqu'un est avec moi. Donc, qui veut le bonheur? Apprends à aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas certaines personnes, tu ne seras pas heureux sur la terre. Je t'assure. Viens un individu que tu ne supportes pas, toi-même, tu viens de troubler ta propre paix. Tu ne seras pas en paix sur la terre. Amen. Et on a cité 8 attitudes. Pour pouvoir arriver à aimer son prochain, il faut le vouloir, il faut le rechercher. On a traité la dernière fois. Pour pouvoir aimer son prochain, la deuxième attitude à avoir, c'est être toujours conscient de la grandeur de l'amour de Dieu à votre endroit. C'est la deuxième attitude à appliquer. Nous l'avons ainsi étudiée. La troisième chose à faire pour aimer son prochain comme soi-même. Si je veux voir un jour les sentiments, l'attention, le fait de ne plus en vouloir aux autres, si je veux que ces choses-là naissent en moi, apparaissent dans mes attitudes, je dois faire ceci. Je dois aimer Dieu plus que tout le monde. Amen. C'est la troisième attitude. Dieu, je dois l'aimer plus que je n'aime ma femme, plus que j'aime mes enfants. Je dois l'aimer plus que toute autre chose, y compris moi-même. Toute autre chose que vous aimez plus que Dieu ou au même niveau que Dieu rend votre amour pour le prochain vulnérable. C'est-à-dire, toute personne que vous aimez plus que Dieu est susceptible, si elle vous frustre, de détruire votre paix. Amen. Si tu aimes Dieu plus que tout, tu seras capable d'aimer les hommes malgré leurs faiblesses, y compris ton mari, tes enfants, tout cela. Amen. Si tu ne supportes plus ton mari, c'est parce que tu aimais ton mari autant que Dieu. Si la tête de ta femme, tu ne la supportes plus du tout, c'est parce que tu aimais ta femme à peu près au même niveau que Dieu. Donc, c'est un symptôme, c'est un signe qui te montre si tu aimais Dieu ou pas. Amen. Si tu deviens nerveux quand tu n'as plus d'argent dans la poche, ça veut dire que tu aimes l'argent presque comme tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose à faire, contempler régulièrement les attitudes d'amour de Dieu et de Christ. On a parlé de cela dimanche dernier, la méditation. Et la cinquième chose que nous avons touchée dimanche dernier, c'est quoi? Ah, ça, c'est que vous n'avez pas oublié ça. Choisir le bon trésor dans le cœur. L'amour du prochain, c'est la manifestation de la bonté. Jésus a dit ceci, un homme est bon, lorsqu'un homme est bon, c'est parce qu'il a trouvé dans son cœur des bons trésors. Il dit, lorsqu'un homme est méchant, c'est parce qu'il a trouvé dans son cœur de mauvais trésors. Et nous avons expliqué, c'est quoi donc le trésor? Comment avoir dans le cœur de bons trésors? Si j'ai des bons trésors dans mon cœur, je vais avoir une attitude de bonté. Et la bonté envers les autres, c'est aussi de l'amour. Alléluia. C'est par amour qu'on est bon envers les autres. Alléluia. Donc, la qualité des trésors. Au deuxième culte, la dernière fois, j'avais dit, c'est un peu les secrets. Vous avez compris que le trésor, sont tes secrets. La qualité des secrets de ton cœur détermine la qualité de tes actions envers les autres. Si tu as de bons secrets, tu vas être quelqu'un de très bon. Si tu as de mauvais secrets, des secrets qui font pleurer, des secrets noirs, tu vas voir que tu deviens subitement méchant. Amen. Et nous avons démontré cela très clairement. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, procurez-vous les DVD ou les CD audio. Amen. La sixième attitude, la sixième clé. Dis avec moi la sixième attitude. Je dirais ceci, estimez-vous comme Dieu vous estime. Estimez-vous, c'est-à-dire l'estime, l'image que vous devez avoir de vous-même et l'image que Dieu a de vous. L'image que vous devez avoir de vous-même et l'image que Dieu a de vous. Matthieu chapitre 22, verset 39. Matthieu 22, verset 39. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alors, nous tirons la sixième clé de ce bout de phrase, comme toi-même. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Autrement dit, la façon dont tu te juges a une incidence sur la relation que tu auras avec ton prochain. Amen. Alléluia. Le comme toi-même est important. Tu aimes ton prochain en fonction de toi. Il y a un point de repère. Le repère en ce qui concerne l'amour du prochain est le repère que tu te donnes de toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que si tu as une mauvaise estime de toi-même, tu vas dégager quelque chose de négatif. La sixième clé est une déduction, est une conséquence de la cinquième. Alléluia. La façon dont tu te regardes va avoir une incidence directe sur la façon dont tu vois les autres et la manière dont tu réagis envers les autres ou avec les autres. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus dit encore cela en Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Rappelez-vous, le Seigneur a dit ceci, aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi et les prophètes. Donc Matthieu 7, 12 est une interprétation, est une reformulation du deuxième commandement. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen vitaminé. Avec la vitamine A de l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. L'estime de soi. Comment tu te regardes? Comment tu t'estimes? J'ai pu marquer trois grandes formes. Il y a la haute estime de soi qui est mauvaise. La haute estime de soi, c'est une personne qui croit qu'elle est mieux que les autres. Si dans ton cœur, tu crois que tu es meilleur que les autres, que tu es meilleur aux autres, que tu es mieux que les autres, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Si dans ton esprit, tu te sens supérieur, ou tu sens ton ethnie supérieure, ou tu sens ton peuple supérieur, tu ne pourras jamais aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez, si les Ivoiriens se considèrent supérieurs, c'est pourquoi il faut qu'on arrête ce genre de choses. Hein? Dieu aime tout le monde. Côte d'Ivoire, la nation de Jésus, les nations là, C'est parce que tu n'es pas dans les autres pays. Sinon, dans les autres pays, aussi, ils voient que leur pays est la nation de Jésus. Tout le monde croit en son pays. Amen. Alléluia. La Côte d'Ivoire est la nation de Jésus. Amen. Le Bénin est la nation de Jésus. Le Libéria est la nation de Jésus. Ils vont dire, non, je connais la seconde même, le second pays de Jésus. Mon frère, le Libéria aussi est le second pays de Jésus. Le Mali aussi est le second pays de Jésus. Quel pays encore? Attends, mon ami, tu crois que quel chrétien dans un pays va vouloir dire que lui, il est le septième pays de Jésus? Qui va vouloir? Pourquoi? Quel verset tu vas lui trouver pour lui démontrer que toi, ton pays, aux yeux de Dieu, est mieux que son pays? Tu vas lui trouver quel verset? Amen. Alléluia. En fait, les hommes ont l'impression que avoir une haute estime de soi permet d'atteindre facilement son destin ou bien de s'automotiver. C'est une mauvaise motivation. C'est une mauvaise motivation. Parce que la haute estime de soi, même si au départ, lorsqu'on la déclare, lorsqu'on la prononce, elle donne une certaine paix intérieure, une certaine assurance, elle est fausse parce qu'elle amène à mépriser l'autre. C'est pourquoi ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Ça, moi-même, je sais. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas supérieure aux autres. Dieu aussi les a choisis. Mais chacun a été choisi pour un plan spécial, un plan spécifique. Donc chacun dans son destin est le héros du film. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous voyons avec ce regard, là c'est juste. Il faut comprendre que le rôle que la Côte d'Ivoire a joué au sein des nations est extrêmement important. Mais le rôle aussi que le Burkina a joué est extrêmement important. Il faut que le Burkina connaisse le réveil spirituel qui va amener les frères burkinabés, amener leur pays dans leur destination. À leur destination. Il faut qu'en Côte d'Ivoire on ait réveil parce que si nous n'accomplissons pas notre destin, alléluia, mais le monde est en danger. Amen. Amen. Mais pensez que si moi je ne me lève pas, c'est fini pour les autres nations. C'est moi seul qu'on attend. C'est toi qu'on attend, c'est vrai. Mais on attend aussi les autres. Amen, amen. La haute estime de soi. C'est vrai, là, je parle en termes de nationalité. Mais c'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. C'est une fausse vision. Et on va comprendre pourquoi c'est si dangereux. Il y a aussi une forme de mauvaise estime de la mauvaise estime de soi. Dans le sens que on se voit trop nul. On n'est rien par rapport aux autres. Ils font tout mieux que nous. Je suis trop nul. Si tu te vois aussi de cette façon, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, par amour pour les autres, considérez-les plus grands. Amen. Ce n'est pas que les gens sont plus grands. Ce n'est pas qu'ils sont plus grands. Nous sommes tous égaux. Mais tu donnes de la valeur aux choses qu'ils font. La mauvaise estime de soi, ce n'est pas qu'elle dévalue ou bien elle élève les autres. Elle se dévalue elle-même. Le passage ne dit pas, dévalue-toi pour donner de la valeur aux autres. Toi-même, tu as une certaine valeur. Mais considère ce que les autres sont. Amen. Amen, amen. Tu n'arrives pas à voir les sentiments qui découlent de l'amour, le pardon, la bonté être manifestée dans ta vie à cause de la façon dont tu te regardes. Est-ce que tu te sens supérieur aux autres ou est-ce que tu te sens inférieur aux autres? Généralement, on se sent supérieur aux autres à cause du matériel ou des choses qu'on possède. Donc, l'homme croit qu'il est grand en fonction de sa maison et de sa voiture. Donc en réalité, celui qui s'estime supérieur, en vérité, se dévalue. Parce que, je ne sais pas si vous me suivez, est-ce que vous me suivez? Parce qu'en vérité, pour cette personne, ce qui a de la valeur, c'est le matériel, ce n'est pas l'homme. Donc, comme moi, j'ai le matériel, et toi tu ne l'as pas, donc moi je suis supérieur à toi. Et la personne aussi qui se sous-estime aussi en fonction du matériel. Comme je n'ai rien, je n'ai pas fait l'école, les autres ont fait des études. Les autres, ils ont eu un papa, moi je n'ai pas eu de papa, quand j'étais enfant, mon père est décédé. Ils ont eu le privilège d'avoir une mère. Moi, je n'ai même pas eu de mère. Donc, comme je n'ai pas eu toutes ces choses, je suis nul. Et l'autre dit, comme moi j'ai eu de grandes choses, je suis important. En fait, c'est la même maladie. Amen, amen. Ou bien c'est pas la même maladie? C'est la même maladie. Alléluia. Alléluia. Mais ces deux mots-là amènent un homme à ne pas pouvoir aimer son prochain et donc à ne pas connaître la paix. Comment arriver à vaincre la mauvaise estime? C'est-à-dire soit la haute estime, soit le fait de se sous-estimer. Comment arriver à vaincre cela? L'estime qui est juste, c'est se regarder comme Dieu nous regarde et regarder les autres comme Dieu les voit, comme Dieu les regarde. Amen, amen. Alors, donc, la sixième clé, l'enjeu de notre sixième clé, c'est comment y arriver? Comment corriger cela dans mon cœur, dans ma vie? Amen. D'abord, il faut connaître quelques petits symptômes. Hein? Quelques petits symptômes. Quand tu vois une personne qui a de l'argent, ou bien qui a un haut poste d'autorité, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu commences à paniquer, tu es un peu bizarre, tu ne sais pas quel mot tu vas lui dire, c'est que toi-même tu t'estimes mal. Si aussi tu le vois et puis tu as envie de mal leur parler. Parce qu'il y a des profs qui ont l'impression que tu n'as pas d'argent, mais tu as l'impression que, parce que je ne sais pas quoi, qu'ils sont responsables de ta situation. Donc quand ils arrivent devant toi, tu dois les agresser. Ou tu dois essayer de prouver que tu es quelqu'un. Si tu as ce genre d'attitude, c'est que tu es malade. Tu auras des difficultés à aimer les autres. Si tu veux appliquer le commandement d'aimer ton prochain comme toi-même, il faut que tu revoies cette position. Amen. Amen. Alléluia. Si tu vois celui qui a la grosse voiture, et quand tu le vois, tu chantes des démarches, tu deviens bizarre. Même si tu es à l'église, si tu es intimidé par les biens que possède une personne, c'est que tu as une mauvaise image de toi. En fait, c'est un signe pour te montrer que tu as une mauvaise image de toi. Juge toi, toi-même. Regarde dans ton cœur. Parce qu'on va parler de, on est en train de parler de ton être intérieur. Regarde. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois le pauvre, comment tu lui parles? Si rapidement tu commences à le tutoyer, toi là, mais il y a quoi même ici? Et puis celui qui arrive à la voiture, monsieur, vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est que tu as un problème avec toi-même. Pourquoi le monsieur qui rentre, qui arrive avec des vêtements déchirés, tu ne le vous vois pas? Bonjour monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous? Donc tu vas arriver, il a les vêtements déchirés et sales. Lui, tu ne dis pas bonjour monsieur, que puis-je, tu ne le vous vois pas. Oui, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ou bien, non, ma soeur, tu parles bien. J'ai mal dit même. Quand tu vois le gars arriver, il y a quoi? Il y a quoi? Non! Est-ce que je peux rentrer? Tu viens voir qui? Ah, je voulais voir le pasteur. Attends ici. Ou bien même si tu ne dis pas comme ça, mais bon, attends. Et puis tu vois l'autre ce qui arrive, qui garde la voiture. Quand tu vois, il sort. Tu regardes le teint. Tu sais que ça fait 30 ans qu'il est dans la climatisation. Il arrive. Oui, bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ok, mais asseyez-vous, je m'informe. Mon frère, écoute-moi. Si honnêtement, tu sais que tu agis comme ça, c'est que tu as un problème avec toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Il faut traiter avec ce. C'est-à-dire, tu évalues un homme en fonction des choses qu'il possède. Il y a un problème. Alléluia. Donc sur la terre, la paix dont parle le Seigneur, tu ne pourras pas la manifester. Le bonheur dont parle Jésus, tu ne pourras pas. Tu vas le chercher ailleurs. Le problème n'est pas ailleurs. C'est que tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même. Tu as un problème avec le toi-même, avec le moi. L'homme a de la valeur, selon toi, en fonction des choses qu'il possède. Dans ta bouche, tu dis que tous les hommes sont égaux, mais dans tes pensées et dans tes actes, les hommes sont différents. Alléluia. Les hommes sont différents. Il y a des catégories. Dis Seigneur, aide-moi. Donc si tu as détecté que tu es malade. Dieu peut commencer à te guérir. Amen. Avec la vitamine A. Donne-moi un bon amen vitaminé. Alléluia. Le monde souffre de cette maladie. En fait, c'est une vieille maladie qui a commencé depuis Adam. Et c'est là qu'on découvre la clé. Cette attitude-là se retrouve dans le désir, la force d'essayer d'accuser l'autre. De se justifier toujours soi-même et de mettre la faute sur autrui. On retrouve ce comportement en Adam. Ça veut dire la première fois où l'homme n'a pas aimé son prochain comme lui-même. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé avec Adam. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de sa femme démontre qu'il a commencé à faire une différence entre les deux. Il dit, Dieu dit, Adam, tu as mangé le fruit. Il avait mangé. S'il aimait sa femme comme lui-même, il a dit, j'ai mangé. Seigneur, pardonne-moi. Mais il dit, la femme que tu as mise, déjà... Amen. Alléluia. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné. Sinon, moi-même, Adam, je ne mange pas les fruits. Dieu, depuis qu'on était ensemble, toi et moi, dans le jardin, est-ce que j'ai une fois mangé le fruit? La femme que tu as mise auprès de moi. Donc, la première fois où l'homme n'aime pas son prochain comme lui-même, ça commence dans le jardin d'Éden. Donc, si vous voulez guérir ce problème, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus. La nudité signifie rien à cacher. La nudité signifie j'ai pas de secret. C'est pas cela? Parce que lorsqu'on se couvre, on cache en fait ce qui est intime. On cache ce qu'on estime pouvoir présenter seulement à certaines personnes. Alléluia. On cache ce qu'on ne veut pas exposer. Donc lorsqu'on dit qu'ils étaient nus, c'est vrai physiquement, mais je pense spirituellement ça traduit beaucoup de choses. Alléluia. On dit l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Donc Dieu les voyait dans tout leur état. Et ça ne leur posait aucun problème. Ils étaient ouverts à Dieu. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, quelque chose s'est produit. Ils ont commencé à chercher à se cacher à Dieu. À se cacher de Dieu. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7 dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11, l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc dans ce cas-là, la femme est responsable, Dieu aussi même est responsable. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen. 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 Donc, ce qui a amené l'homme, ce qu'il a changé, lorsqu'il a mangé le fruit, ce qu'il a ressenti, c'est la honte. Avant, l'homme n'avait pas honte. Lorsqu'il a mangé le fruit, il a eu honte. La honte, se traduit par un désir de cacher certaines choses. La honte se traduit par un désir à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on est. La quête de l'argent, quelquefois, couvre ce qu'on n'a pas envie de voir. Le matériel est une couverture. Nous ne voyons plus les hommes, nous voyons ce qu'ils possèdent, ce qui les couvre, ce qui les habille, ce dans quoi ils vivent, et non pas qui ils sont. Mais nous regardons les hommes comme cela parce que nous-mêmes, nous refusons de nous voir. Ou nous refusons que Dieu nous voit profondément. Qu'est-ce que j'entends expliquer? Pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, tout simplement, il faut être nu devant Dieu. Il faut revenir à la notion de nudité. C'est-à-dire, il faut que... Mon frère, je n'ai pas dit de te déshabiller dans l'église ici. Amen. Tu fais, on te prend, on prie pour toi, on t'amène à la délivrance. Amen. Amen. Voilà, si tu te déshabilles pas, ça a été là.
Alléluia.
C'est pas de cela que je parle. Je suis en train d'expliquer que l'homme a commencé à ne plus assumer son identité, qui il était, ce qu'il a fait, à ne plus assumer pleinement ses actions lorsqu'il a mangé le fruit. C'est-à-dire, quand il a mangé, lorsqu'il a mangé le fruit, a produit une chose, c'est qu'il a eu honte de ses actions. Il a eu honte de lui-même. Et comme il a honte, il veut se couvrir avec sa femme et avec Dieu-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu, tu es responsable. Si tu n'avais pas dit, si tu ne m'as pas donné cette femme-là, depuis là, on serait resté ici. Amen. Comment savoir qu'on est habillé spirituellement? On accuse. Ça, c'est un symptôme pour d'autres personnes. On accuse souvent les autres. Les gens sont souvent responsables des choses qui nous arrivent, de la façon dont nous parlons, de la façon dont nous agissons. Pour que ton âme soit guérie, pour que tu apprennes à aimer ton prochain comme toi-même, il faut que tu redeviennes nu aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, tu dois enlever le vêtement, tu dois laisser Dieu toucher les points, te parler de ta personne. Alléluia. Alléluia. Parce que le truc, c'est que c'est ton vêtement qui te donne une image, qui te donne l'image, en fait, qui te donne une fausse image de toi. Si aujourd'hui, tu es habillé avec des vêtements de 10 millions, tu te considères une personne qui vaut 10 millions. Si tu es habillé avec des vêtements de 1000 francs, tu t'évalues à 1000 francs. Si tu habites dans une maison de 30 000 francs par mois, tu te regardes d'une valeur de 30 000 francs. Si tu habites dans une maison de 10 millions de loyers par mois, tu te considères comme une personne de 10 millions. C'est le vêtement là qui est une conséquence de la honte, qui cache qui nous sommes, qui empêche Dieu et qui nous empêche, pardon, nous-mêmes de nous voir réellement. Or, si nous ne nous voyons pas, nous ne pouvons pas aimer l'autre. Car tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi pas comme ta maison, pas comme tes voitures, pas comme ton argent, comme toi-même. Toi-même, où es-tu? Tu dis à Dieu, je suis la position sociale que j'occupe. Je suis DG de la boîte. Tu n'es pas DG, ça c'est un vêtement. Quand tu es né là, tu n'es pas né avec DG. Tu es né nu. Ça c'est ce que tu es. Et puis il y a ce que tu es et il y a ce que tu as eu. Il y a ce que tu es et il y a ce que tu as obtenu. Il y a ce que tu es, il y a ce que tes parents ont obtenu par leur travail. Tu es né dans le luxe. Mais ce n'est pas toi. Sois nu. Enlève le vêtement afin de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, afin d'avoir la juste estime de toi. Alléluia. Alléluia. Arrête de t'estimer avec les choses que tu possèdes. Arrête de t'évaluer par rapport à ta maison. Arrête de t'évaluer par rapport à ta position sociale. Arrête de t'évaluer par rapport aux nominations ou aux noms que les gens te donnent. Qui es-tu? Amen, amen. Amen. Dans la pratique, pour y arriver, on fait rapidement ces choses. Soyez ouverts avec Dieu. Ne cachez rien avec Dieu de vos faiblesses. Ne cachez rien. Avouez les profondeurs de vos fautes. Amen. Suivez-moi bien ici. Malheureusement, je pense que je n'ai pas fini cette clé. Mais je vais expliquer c'est quoi la nudité. C'est ce qui fait, ça fait la différence et ça apprend aux personnes à aimer les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cachez rien. Soyez honnête. Être nul, c'est être honnête. Être tel qu'on est devant Dieu. Être habillé spirituellement, c'est se présenter à Dieu avec une autre image. Alléluia. Alléluia. Le pharisien qui vient prier que Jésus n'écoute pas, il se présente avec ses activités. Je jeûne deux fois par jour. C'est quand tu dois me regarder. Et moi, je donne, je fais l'aumône. Tous les dimanches, je suis à l'église. Vous comprenez? Il y a des piétés. Il y a un zèle qu'on peut faire dans la maison de Dieu qui est un vêtement pour se cacher. Alléluia. Alléluia. Pour être nu devant Dieu. Alors, rappelez-vous, si je suis nu devant l'Éternel, je serai à même d'avoir une juste estime de moi. Et si j'ai la juste estime de moi, je pourrai alors estimer l'autre. Amen, amen. Pour être nu, il faut être honnête avec Dieu. Il faut lui présenter des choses telles qu'elles sont, ce qu'on ressent vraiment. Ce qu'on ressent peut faire honte. Mais il faut le dire quand même. L'homme avait honte de ses parties génitales. C'est ce qu'il a couvert. Présente-les. Ça fait honte, mais présente quand même. Présente-les à Dieu. Sois vrai envers Dieu. Je me suis rendu compte donc de ceci. Que quelquefois, on fait des palabres, simplement, par jalousie. La jalousie est souvent un vêtement. Quelquefois, vous savez, on n'aime pas la tête d'une personne. On va expliquer, elle est ceci, elle a fait ceci, elle est cela. Mais la réalité, la vérité, c'est que ça nous fait mal qu'on était pareil avant et aujourd'hui, elle a de l'argent et nous, on n'en a pas. La profonde raison, là, c'est ça. Maintenant, tout ce qu'on explique, là, c'est un vêtement. Hier, elle est venue à l'église, elle m'a mal parlé, tout ça, là. Ce n'est pas la vérité. Tu n'es pas nu. Tu expliques d'autres choses. Hein, tu as dit non, c'est pas quoi. Tu déplaces le problème. Être vêtu, c'est déplacer les problèmes. Viens devant Dieu, dis Seigneur, je ne sais pas. Hein, ça me fait mal. Je ne suis pas content de toi d'abord. Dis ça à Dieu. Pourquoi? Seigneur, moi j'ai commencé ma vie spirituelle avec cette soeur-là. Oh Dieu, oui, mais on a commencé les affaires ensemble. Regarde où elle est arrivée. Et moi je suis ici. Ça, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu penses. Maintenant, au lieu de le dire à Dieu, au lieu de venir être devant Dieu pour te plaindre, pour être vrai, peut-être que tu n'as pas raison. Mais nous-mêmes, on trouve que cet argument de jalousie-là n'est pas bon. Donc, on le cache. On a honte de cela, on le cache. Et ce qu'on ressort, c'est pas vrai. Parce que la sœur qui a prospéré hier, elle a fait une bêtise. Tu vas parler de cette bêtise-là avec une colère. Comme si toi-même tu ne fais jamais d'erreur. Mais regardez ça. Vous êtes là dans l'église, vous priez. Tu dis tu pries. Voilà. Mais si tu continues de parler, tu vas sortir une parole qui va dévoiler ce que tu es, ce que tu penses. La réalité, c'est que ce qu'elle fait t'énerve. En fait, ça te gêne parce que ça te montre que toi, tu n'as pas réussi quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas vrai. Et ce qui va se produire, c'est que tu vas rejeter les gens, tu vas faire des palabres inutiles, tu vas arriver dans des groupes, on va faire des palabres pour rien. Tu vas faire des palabres pour rien. Parce que tu estimes qu'il y a des choses que toi, tu aurais dû obtenir, Dieu ne t'a pas donné, on a donné ça à l'autre. Ça te fait mal. La jalousie. Amen. Mais c'est la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. La deuxième fois, l'homme a détesté son prochain. C'est la même raison. Il arrive, il fait une offrande à Dieu. Dieu apprécie l'offrande de Abel. Dieu n'apprécie pas son offrande. Mais ouvre-toi à Dieu. Dis Dieu, je ne suis pas content. Moi, je fais mon offrande de tout mon cœur. Maintenant, Dieu va t'expliquer pourquoi il n'a pas apprécié. Au lieu de s'en prendre à Dieu, il se retourne contre son frère. Il dit, mais le gars, il se prend pour qui? C'est Adam, c'est Abel là. Dieu vient dire à Caïn, calme-toi. On dit, Caïn n'a rien dit, il a attendu Abel au carrefour. Il dit, Abel viens. Et il a tué son frère. Parce que son frère a réussi quelque chose que lui n'a pas réussi. Mais Dieu aurait pu le guérir s'il avouait sa faiblesse, s'il se mettait nu, s'il ne couvrait pas sa blessure avec un vêtement de j'ai raison, le vêtement de hier il a menti. C'est vrai qu'il a fauté, c'est vrai qu'il a fait une bêtise, mais la façon dont tu amplifies sa bêtise là, c'est fonction de ce que au fond de ton âme tu lui en veux. Tu lui en veux parce que tu as l'impression que vous étiez des frères et son papa l'appréciait lui par rapport à toi. Et quand tu parles avec ton propre frère, vous êtes de la même famille, mais quand tu parles avec lui, tu t'attardes beaucoup sur ce qui est négatif de sa vie. Tu aimes à lui rappeler cela pour blesser. Mais dans le fond, c'est que toi-même tu es habillé. Pour pouvoir arriver à aimer ton prochain comme toi-même, à ne plus en souffrir, il faut que tu enlèves le vêtement avec lequel tu trouves toutes tes excuses. Et tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, mon frère là, je n'aime plus sa tête. Parce que quand on était petit, papa a tout fait pour lui. Il n'a rien fait pour moi. Moi, j'étais toujours rejeté. Et ça fait que j'ai mal travaillé en classe même. Je ne voulais même plus aller à l'école. Et mon père était là. C'est bon, il y a des papas aussi qui sont aussi bizarres. Tous sont les enfants, mais ils préfèrent certains par rapport à d'autres. On ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut aimer Dieu plus que tout le monde. Parce que si tu veux appuyer ton amour sur les hommes, sur l'homme, tu vas haïr. L'homme est imparfait. Il est ce qu'il est. Dieu, il est juste. L'homme n'est pas juste. L'homme n'est pas juste. Il est juste dans certains domaines, dans d'autres, il n'en est pas. Et cette douleur-là, tu la couvres au lieu de dire que tu en as souffert, au lieu de dire que tu ne supportes pas le favoritisme que tes parents ont eu, le favoritisme que les profs ont eu quand tu étais à l'école par rapport à d'autres élèves. Au lieu de dire que tu n'acceptes pas cela, tu présentes le problème autrement. C'est ce qui amène, écoutez-moi, c'est ce qui amène à la sorcellerie. J'ai voyagé il y a quelques jours, et puis je parlais avec un gars dans l'avion. Il me dit, pasteur, si tu veux voir la sorcellerie, il dit, ah bon, en parenthèse, il dit, regarde les politiciens. Que la politique, là, c'est le modèle visible J'ai réfléchi, j'ai dit, mon gars, tu as raison même. Peut-être quand tu vois la trahison, la haine, la méchanceté, les trucs, pour pouvoir avoir du pouvoir, le mensonge, lorsqu'on prend la faute d'une personne, on l'amplifie. On essaie de dire, oui, c'est comme ça. C'est tout simplement parce que quelque part, on n'aime pas sa tête. La vérité, c'est autre chose. Mais quand on n'aime pas la tête d'un individu, on aggrave. Lorsqu'on aime quelqu'un, on trouve des excuses. Mais ce n'est pas le vrai problème. Toutes ces choses-là viennent du fait qu'on ne se met pas nu pour dire ce qu'on ressent. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc dis à quelqu'un, mets-toi nu devant Dieu. Traite les problèmes dans leur fond. Mais la nudité, comme je rappelle, ça fait honte. Parce qu'il y a des choses, si on les admet, nous-mêmes ça nous fait honte. On n'a même pas envie que Dieu voie cette pensée noire de notre cœur. Mais il faut te déshabiller. Parce que c'est à ce prix-là que Dieu va te guérir. Mais on vient devant Dieu, on met le figuier nous-mêmes. Dieu dit, Gasparette, où es-tu? Ah, moi je me suis habillé. Gasparette sort, on voit un figuier à ses reins. Mais pourquoi tu mets cela? Non, parce que je suis nu, pourquoi tu veux me voir? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas joli sur moi, je n'ai pas envie que tu regardes. Si Dieu ne peut pas te voir, tu vas te juger faussement. Or, si tu as une mauvaise estime de soi, si tu t'estimes par rapport aux vêtements que tu portes, si tu t'estimes par rapport à la justification que tu donnes aux choses, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, il faut être nu devant Dieu. Il faut être nu devant Dieu. Je rappelle, parce que vous savez, dans l'église, il faut tout expliquer. Être nu devant Dieu, ce n'est pas d'aller dans ta chambre, te déshabiller, et puis faire tes prières. Parce que j'ai dit de... Être nu, ça veut dire les mobiles même méchants là. Ce que les petites jalousies, le fond du problème, expose-le. C'est-à-dire, Dieu là, il faut le lui donner. Quand on veut rattacher ça à l'enseignement de la dernière fois sur la cinquième clé, c'est quelque chose de négatif. Les secrets, les mauvais trésors doivent être exposés. Les mauvaises pensées du cœur doivent être exposées. Les petites jalousies, les amertumes. Lorsqu'on demande à Caïn, Caïn, pourquoi tu es fâché? Et puis après que Dieu lui demande, mais où est ton frère? Dieu pose la question, mais où tu es? Où est ton frère? Adam dit, où tu es? Caïn dit, mais est-ce que tu m'as mis, est-ce que je suis son gardien? Oh, il venait de le tuer. Cette attitude de vouloir cacher, de vouloir se cacher à Dieu. Dieu te voit tel que tu es. Ce dont il a besoin, c'est que tu avoues ce que tu es, ce que tu penses. Et parce que cela est une mauvaise pensée, il va t'en délivrer. Mais si tu la caches même à ton Créateur, elle va te détruire. Elle va te rendre méchant. Elle va te rendre négatif. Adam aurait dû se présenter à Dieu tel qu'il était. Et puis dit Dieu, je pense qu'il y a un problème. Hein? La nudité là, n'est pas une bonne chose. La Bible dit qu'il était nu, mais il n'en avait point honte. Amen, amen. Et puis la dernière petite chose toujours pour terminer, c'est pareil, c'est-à-dire exprimer à Dieu aussi les choses clairement telles que vous le voulez. Ce que vous désirez. C'est-à-dire, ne... Je n'ai pas dit que ce qu'on exprime est juste. Ce n'est pas toujours juste. Mais il faut être nu. Ça veut dire, devant Dieu, sois toi-même. Sois toi-même, sois vrai, sois authentique. Ne te présente pas avec des faux fuyants, avec des manières de l'impressionner. Tu ne peux pas l'impressionner. Tu dis ce qui est pour qui te. Donc quand tu penses à des choses, il faut le lui dire. Il faut l'exprimer. Ce fut le problème du frère aîné du fils prodigue. Amen. Il était avec son père. Depuis des années, il voulait manger le veau gras, mais il ne le disait pas. Son frère est venu, ils ont fait le partage de la nourriture. Ils ont fait le partage de la nourriture, ils ont fait le partage de l'héritage. Le jeune frère est parti dilapidé. Il était pervers. Lui, l'aîné, il est resté à la maison. Mais franchement, il pensait que son attitude de sérieux allait attirer une certaine faveur et son père allait venir lui dire un jour, « Fiston, le veau gras, c'est pour toi. » Son père ne lui a rien donné parce qu'il aussi n'exprimait rien. Quand le jeune frère revient après avoir pris conscience de son péché, il présente les excuses à papa et son père décide de faire une fête. Son père fait la fête. Le frère aîné revient des champs. Il apprend. Il dit, mais pourquoi il y a la fête à la maison? On dit, non, ton petit frère est revenu et ton père a tué le veau gras. Lisez le passage dans Luc 15. C'est l'histoire du veau gras là qui lui a fait mal. Et la Bible dit, il s'est mis dans une colère. Toujours, il s'est mis dans une colère. Lorsqu'on porte les vêtements, ça, on devient irritable. Caïn s'est mis dans une colère. Ce jeune homme s'est mis dans une colère. Il va voir son père maintenant. Il dit, voilà papa, vraiment tu es injuste dans la vie. Depuis des années, je suis avec toi. Ce bon à rien de notre petit frère, il a pris ton argent, il a dilapidé tout ton bien. Et maintenant, il vient, c'est pour lui que tu le veux grand. Moi qui suis toujours avec toi ici, tu ne m'as jamais même récompensé. Amen. Vous savez, j'explique cet enseignement dans l'enseignement sur l'identité. Je ne vais pas trop revenir parce que je dis que le fils aîné lui-même, il avait un problème avec sa conscience. Il ne se sentait pas. Dans la bouche, il disait qu'il était le fils, mais dans ses pensées, il se voyait juste comme un serviteur. Ce sont les esclaves dans la maison qui sont rémunérés pour leur service. Les fils servent sans attendre un salaire parce que tout ce qui est dans la maison est à eux. Donc, or lui, il dit papa, mais dans ses gestes, il s'attendait que ses bonnes œuvres soient rémunérées. Or, un fils n'est pas rémunéré. Un fils possède. Si on ne lui donne pas de salaire, c'est tout simplement qu'il est en train d'apprendre parce qu'un jour, tout est à lui. Alléluia. Donc, si je crois que Dieu me doit quelque chose parce que j'ai posé des actes, c'est que je me comporte comme un esclave, pas comme un fils de Dieu. Amen. Ça, c'est son premier problème. Le deuxième, c'est que si au moins il avait exprimé à Dieu, à son père, ses désirs, on aurait pu les traiter. Être nu devant Dieu, c'est exprimer à Dieu les choses qu'on souhaite vraiment. Souvent, on ne les exprime pas. Et puis après, quand quelqu'un d'autre est béni à côté, maintenant on est fâché. On dit, mais fallait dire ce que tu voulais. Au moins, s'il avait exprimé, papa, je veux le veau gras. Ils auraient discuté, mais tu peux le prendre, il est à toi. Son problème aurait été traité. Mais ce frère a commencé à mépriser son jeune frère, à ne pas aimer son prochain comme lui-même, à ne pas se réjouir avec son papa de l'arrivée de son petit frère parce que il n'était pas honnête. Et il estimait que son père aurait dû le savoir. C'est quoi cette façon de faire? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des groupes, qui travaillent avec des personnes et qui estiment que c'est naturel que tu sentes ce dont ils ont besoin. Si tu ne leur réponds pas, ça crée en eux l'amertume. N'ayez pas ce genre d'attitude. C'est pourquoi la Bible dit, demandez, parlez. Quelquefois, vous pensez que c'est évident pour les autres de savoir ce dont vous avez besoin. Mais ce n'est même pas évident. Le papa ne s'en rendait pas compte que son fils voulait le veau gras. Amen. Pour le fils, c'est évident. Je suis tellement fidèle que quand même, papa, il doit me donner le veau gras. Papa ne savait pas parce que pour lui, le veau gras est à son fils. Le fils pense que le veau gras appartient à papa et papa doit me rémunérer avec le veau gras. Papa, lui, il pense, mais le veau gras est pour mon fils. Et papa même réfléchit, mon fils, depuis là, il ne mange pas le veau gras. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas le veau gras. Le fils aussi, papa, même s'il me donnait le veau gras, pourquoi depuis là, il ne me donne pas le veau gras? Et on vient, on tue le veau gras, on donne au petit frère. Il est en colère. Vous voyez? Alléluia. Il faut savoir exprimer les choses qui sont dans notre cœur. Il faut être nu devant Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Nous savons aujourd'hui que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, il se trouve que nous nous voyons mal. Nous avons une mauvaise image de nous parce que nous avons porté des vêtements de religiosité, des vêtements, parce que pour nous, c'est la religiosité, la piété, le titre pastoral, tout ça qui donne une certaine valeur à notre personne. C'est un vêtement. Nous ne sommes pas nus devant Dieu. Nous ne sommes pas nus devant Dieu. Nous cachons nos fautes, nous cachons nos transgressions. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur te dit, pour aimer ton prochain comme toi-même, apprends à venir devant lui nu, sans vêtements. Nu, comme je l'ai dit sur le plan spirituel, nu. Rien à cacher devant l'Éternel. Même si ce que tu penses dans ton cœur, tu estimes que cela est négatif, mais à qui iras-tu? Si devant ton Dieu, tu ne présentes pas ton état intérieur, à qui vas-tu le présenter? Celui à qui tu dois présenter ta nudité, ta faiblesse, tes pensées les plus profondes, tes désirs les plus intimes, c'est à Dieu. Ouvre la bouche et parle avec lui. Parle avec lui. Alléluia. Riando bobo shatari de bros, karababa yandari de bros. Rianda bada shatari de bros, clarianda bradisharabos. Prédelorianda bradisharabara la kéregere le ondoro debout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes hauts faits. Merci Père pour tes bienfaits. Je bénis ton nom, Père, pour ta parole. Oh Dieu, ce matin nous venons devant toi. Nous enlevons tous les vêtements dans notre esprit, dans notre âme, dont nous nous étions accoutrés, Seigneur. Toute fausse image que nous avons voulu présenter à toi, qui ne traduisait pas notre vrai nous, notre vrai moi. Seigneur, nous venons tels que nous sommes devant toi ce matin.
Je suis heureux.
Dieu, dans tes bras d'amour, Seigneur. Tu nous prends tels que nous sommes. Tels que nous sommes, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous apprends en ce jour à nous présenter à toi tels que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. On peut acclamer, pousser des cris de joie vers l'Éternel notre Dieu.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from here.